Bonjour, c'est Arnaud Touche, correspondant de RTL et M6 aux États-Unis. Aujourd'hui, dans ma lettre d'Amérique, je vous emmène à Memphis, dans le Tennessee, au bord du Mississippi. Je suis ici car le plus long fleuve des États-Unis connaît une sécheresse historique, avec des conséquences visibles du nord au sud du pays. L'eau salée remonte depuis le golfe du Mexique et le trafic fluvial est fortement ralenti car le débit du fleuve n'est plus suffisant. Hi everyone, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lettre d'Amérique. Cette lettre, je la poste depuis une berge le long du Mississippi. Je me trouve à Memphis, dans le Tennessee, à une dizaine de minutes du centre-ville. Je suis actuellement devant une marina, c'est un petit port. Et je dois bien vous avouer qu'en voyant ce que je vois devant moi, je m'interroge. Parce que ce que je peux voir est absolument édifiant. En contrebas, à plusieurs dizaines de mètres en contrebas, il y a des bateaux, mais qui ne flottent plus du tout. C'est pourtant une évidence. Ils flottaient il y a encore quelques mois ici, puisque cette marina accueillait des plaisanciers. Désormais, ce n'est plus possible. Au sol, enfin plutôt dans la vase, il y a des carcasses de poissons morts sur le bitume également, mais aussi, et c'est le plus saisissant ici, des épaves toutes rouillées. Alors, descendons ensemble et montons sur ce qui reste du ponton. Pour vous représenter la scène, dites-vous que c'est un ponton en bois, on ne peut plus normal. Et normalement, en dessous, eh bien, il y a de l'eau et ce ponton flotte. L'eau issue du fleuve Mississippi. Eh bien, ce ponton, cette fois, il touche la terre, il touche terre. Et tout autour, il y a de l'herbe et des bouts de bois secs, très secs. Ils sont enchevêtrés sur un sol craquelé et se mêlent à des dizaines de déchets plastiques. C'est d'ailleurs le son que vous entendez derrière moi quand je marche. Honnêtement, cette scène devant moi, elle est frappante parce que ça m'a rappelé un reportage que j'ai fait en Haïti juste après le passage de l'ouragan Matthew. C'était en 2016 où j'ai pu voir à l'époque des bâtiments et des bateaux sans dessus dessous. Et j'ai le même sentiment que lorsque j'ai découvert un village côtier en Haïti qui avait été en quelque sorte dévasté, avec des bateaux qui étaient sur la terre ferme et des maisons retournées, devenues inhabitables, un peu comme ici. Au loin, je peux voir un bateau typique du Mississippi, avec sa grande cheminée à l'avant, une sorte de bateau à aubes que vous avez déjà vu dans les films. Celui-ci rouille irrémédiablement depuis plusieurs années. Il est échoué ici, ça c'est certain. Et il y a quelques mois, l'eau devait encore lécher encore un petit peu la coque. Mais désormais, il est enfoncé dans la vase, comme la plupart des autres bateaux ici. Mais cette fois, il ne bougera plus du tout, tant que le niveau de l'eau restera aussi bas. Vous l'avez compris, je vous emmène donc aujourd'hui ici pour vous parler de la sécheresse du Mississippi. Mais on dit bien souvent que c'est le plus long fleuve des États-Unis. Le Mississippi fait 3 766 km, mais il faut savoir que le Missouri est l'affluent du Mississippi. Pour vous représenter le Mississippi, eh ben, c'est un gigantesque fleuve qui part quasiment de la frontière canadienne, hein, dans le nord des États-Unis, et qui se jette dans le golfe du Mexique tout au sud du pays. Il traverse pas moins de 10 États aux États-Unis, dont le Wisconsin, le Missouri, le Kentucky, le Tennessee où je me trouve, ou encore l'Arkansas qui n'est franchement pas loin de l'autre côté du Mississippi. Alors si vous avez l'occasion, vous pourrez voir quelques images que j'ai pu tourner pour M6 dans cette petite marina, ce petit port. Et je précise que cette marina est en fait située sur une sorte de petit lac alimenté directement par le fleuve Mississippi qui est à peine à quelques kilomètres d'ici. Il existe deux marinas à Memphis, et dans l'autre marina dans laquelle je me suis rendu également, eh bien les bateaux étaient encore à flot, mais le niveau du Mississippi dans ce bras reste infiniment bas et historique. Cette sécheresse, elle implique évidemment des conséquences immédiates, visuelles, à savoir donc des bateaux qui baignent aujourd'hui dans la vase. Mais devant moi, il y a également des petites maisons sur l'eau et des habitants, parce que le long du fleuve, et bien notamment dans les marinas, il y a des gens qui se sont installés sur des maisons flottantes. Ces maisons, elles ne sont parfois plus du tout habitables. Lens habite ici depuis 4 ans, et voici ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré.
C'est vraiment un désastre, c'est historique, c'est encore plus bas que le record. J'espère et je prie pour que l'on remonte. Ça aidera tout le monde et pas seulement les gens qui vivent ici, l'Arkansas, le Mississippi, la Louisiane, tous les États.
Lens Lamour, c'est son nom, un nom français donc, est en réalité assez terrifié par ce qu'il se passe chez lui au bord de l'eau. Il n'a tout simplement jamais vu cela. Il faut dire que c'est la deuxième année où le fleuve Mississippi est à son plus bas niveau et en octobre, le mois dernier, eh bien le fleuve a battu un nouveau record historique. La vie des habitants le long du fleuve est aujourd'hui bouleversée puisque certains ne peuvent plus habiter ici. Et pour remonter le long des berges, il faut marcher encore et toujours et encore plus haut surtout et encore plus loin. Et ici, il y a pas mal de personnes âgées qui habitent et certains ont dû déménager également à cause de cela. Je vois par exemple des habitants ici avec des cannes et qui ont du mal tout simplement à marcher sur ce ponton et remonter les dizaines de marches pour arriver jusqu'en haut de la berge, car les marches à monter sont désormais beaucoup trop nombreuses pour accéder à la rive. Si le fleuve est à sec, c'est notamment parce qu'il n'a pas suffisamment plu en amont, il n'y a pas eu suffisamment de neige non plus et elle n'a pas suffisamment fondu. Et c'est cette eau qui manque aujourd'hui cruellement en amont et en aval de ce fleuve gigantesque et qui a des conséquences dramatiques pour tous ici. Alors certains promeneurs ou certains habitants sont venus me voir en me demandant ce que je faisais avec ma caméra et mon micro et je leur ai donc expliqué que je m'intéressais à la sécheresse du Mississippi et tous m'ont expliqué qu'ils n'avaient absolument jamais vu ça. Mais pour autant ils pensent aussi que eh bien, c'est le cycle de la nature et que ça ira probablement mieux dans quelques mois. Presque aucun ne souhaite faire le lien avec le réchauffement climatique et tous ont l'espoir de revoir de l'eau ici. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a des conséquences économiques directes à cause de cette sécheresse historique. Si on regarde le fleuve Mississippi, depuis un des ponts de Memphis, on se dit qu'il n'y a franchement pas de quoi s'inquiéter parce que ce fleuve reste très large et quelques bateaux naviguent dessus. En réalité, c'est un vrai problème. Si on regarde les cartes satellites de l'année dernière, on se rend compte qu'en fait, d'immenses bandes de sable sont apparues, tout simplement parce que le débit du fleuve a diminué ces derniers mois. Et cela a une conséquence majeure, la diminution du trafic fluvial. Le fleuve est utilisé majoritairement pour transporter des marchandises. Alors ce sont souvent des graines et surtout des produits issus de l'agriculture. Et souvent vous avez un bateau qui pousse plusieurs dizaines de barges. C'est d'ailleurs assez impressionnant à voir. Il faut imaginer des sortes de Lego collés ensemble qui font des dizaines de mètres. Une sorte de grand rectangle poussé par un seul et même bateau. C'est franchement très impressionnant quand vous le voyez d'en haut. Mais là encore, ces bateaux commerciaux, ils ne peuvent plus circuler normalement. Tout simplement parce que en amont et tout au long du fleuve, eh bien, certains ports agricoles ne sont plus en capacité de déverser les récoltes, les graines, dans les bateaux de marchandises. À cause du manque d'eau, les bateaux ne peuvent tout simplement plus accoster. Alors, j'ai voulu en savoir plus et pour cela, je me suis rendu directement chez les producteurs, les agriculteurs. Memphis est un état voisin de celui de l'Arkansas. Si vous n'êtes jamais allé dans l'Arkansas, eh bien c'est assez simple. C'est beaucoup de terres agricoles, des routes à n'en plus finir sur des centaines de kilomètres. De nuit, mieux vaut ne pas être fatigué, parce que le risque de s'endormir, pour l'avoir expérimenté, est quand même assez grand. Avec parfois une ou deux petites maisons sur le côté qui appartiennent bien souvent à des fermiers, des propriétaires terriens. Vous avez également beaucoup de camions et surtout une série assez impressionnante d'engins agricoles et de pick-up, tous plus gros les uns que les autres. Et j'ai pris rendez-vous avec un producteur dans la région d'Osceola, c'est environ à une heure et demie de Memphis, au nord, dans l'Arkansas. Alors il se trouve que quand je suis allé faire ce reportage, eh bien il pleuvait des cordes, un comble alors que je suis venu ici pour parler de la sécheresse, mais toute cette eau n'aide évidemment pas à long terme pour résorber cette sécheresse latente. J'ai donc rencontré Travis, qui est producteur de maïs, de soja, mais aussi de coton. Ce qu'il m'explique, c'est que depuis la sécheresse de l'année dernière, eh bien les producteurs ne peuvent plus envoyer leurs marchandises grâce au fleuve. C'était jusque-là pas très cher et le trafic de bateaux de marchandises était largement suffisant. Pour autant, les graines ne peuvent pas être stockées pendant des années ici. Il faut bien qu'elles soient transportées pour être ensuite transformées. Et bien désormais, ils font appel à des camions et au transport routier plutôt qu'aux barges qui étaient classiquement utilisées sur le Mississippi. Un autre problème, et bien c'est ce fameux stockage. J'ai pu parler à un conseiller agricole qui m'expliquait que la quasi-totalité des stockages en ce moment dans l'Arkansas étaient pleins, tout simplement par manque de transport pour que ces graines et ces marchandises agricoles partent vers le sud du pays, par la suite pour alimenter toute la population américaine. Les conséquences économiques sont aujourd'hui très claires, mais Travis Center ne pense pas que le réchauffement climatique soit en cause. Voici ce qu'il m'a expliqué.
Il n'y a rien que je puisse faire concernant le réchauffement climatique. Je n'y pense pas beaucoup. Je pense que c'est juste la nature, mais peut-être que je me trompe. Mais je ne suis pas inquiet.
En réalité, c'est toute l'économie le long du fleuve qui est touchée par cette sécheresse. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mississippi il se jette dans le golfe du Mexique, tout au sud, après 3766 km. Et depuis quelques mois, le débit du fleuve n'est plus suffisant. Et la conséquence, c'est que l'eau salée du golfe du Mexique, elle remonte le lit du Mississippi. Ça, c'est un gros problème aussi, puisque la salinité joue sur les cultures. Beaucoup d'agriculteurs comptent sur l'eau du Mississippi pour irriguer leurs cultures, que ce soit des fruits ou d'autres produits agricoles. Problème, une eau salée, c'est néfaste pour les plantes. Et bien entendu, les récoltes en sont directement impactées. C'est également un problème pour la population, puisque certains ont dû carrément prendre de l'eau potable. J'ai également pu voir un dragueur. Alors un dragueur, c'est un bateau un peu spécial qui drague le fond du fleuve. Il gratte en réalité le fond pour permettre au bateau de continuer à naviguer malgré le faible débit. Ce bateau, il appartient même au génie de l'armée américaine. Et on peut le voir à Memphis quand on regarde le fleuve Mississippi. Il rejette de la boue et un peu de sable en plein milieu du fleuve pour tenter de lutter, même si vu d'ici, cela paraît dérisoire par rapport à cet immense cours d'eau. Voilà pour cette lettre d'Amérique que je vous envoie donc depuis Memphis, dans le Tennessee, avec un sujet qui touche donc à l'environnement aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, ce fleuve est une colonne vertébrale pour les États-Unis, mais également un sujet majeur pour les populations qui vivent dans les villes et villages au bord du fleuve, et même bien au-delà. Alors comme d'habitude, on va se quitter en musique, bien sûr. Alors bien évidemment, quand j'ai dit que j'allais à Memphis en mission, j'ai posté une petite photo sur place, sur les réseaux sociaux, et mes amis m'ont un peu chambré, comme on dit, en me rappelant la chanson d'Eddie Mitchell, que vous connaissez peut-être, sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
Chanson évidemment très connue en France. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le clip de cette chanson, qui m'a beaucoup amusé, tant il est, disons, un peu particulier, avec ce chien à l'avant d'une voiture et des images qu'on dirait presque collé sur une vidéo, cela donne un cachet assez particulier. Regardez ce clip. En tout cas, cette chanson, vous la connaissez peut-être comme moi. Alors voici Sur la route de Memphis, mais pas d'Eddie Mitchell, car non, cette chanson, elle n'est pas de lui en réalité, mais d'un auteur américain. La chanson d'Eddie Mitchell n'est qu'une traduction et une adaptation française de la chanson originale That's How I Got to Memphis, de l'auteur américain Tom T. Hall, enregistrée en 1976, que je vous propose donc de découvrir maintenant. Installez-vous au volant de votre Chevrolet, appuyez doucement sur l'accélérateur et allons ensemble à Memphis, c'est tout droit. Thank you and goodbye.
If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She's
mad and she used to say that she'd come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Well, I've got to find her and tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why she had to go. Thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. 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 That's how I got to Memphis.
Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes d'écoute préférées.